Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les passagers à Orly en fin de matinée tombent des nues.
Elle reportait la grève ?
Annulée.
Bah tant mieux.
Ah.
Bon, bah la grève est annulée.
Une partie des contrôleurs aériens lève la grève. Trop tard pour ce couple. Ils devaient partir demain en Grèce, mais ont déjà avancé leur trajet à leurs frais.
Alors, grève ou pas grève ? Pas grève, mais pas d'avion quand même. Difficile à suivre, comme on l'entend dans ce reportage de France 24 du 24 avril, la veille du mouvement de grève annoncé, puis annulé par le principal syndicat des contrôleurs aériens, des salariés indispensables à la sécurité du ciel européen. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Retrouvez-moi tous les soirs à 17h sur leséchos.fr. Et si vous appréciez le travail des journalistes de votre quotidien préféré, soutenez-nous en vous abonnant sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant à propos des grèves.
Non. Face à la menace d'un jeudi noir dans le ciel, jusqu'à 3 vols sur 4 annulés, ces agents de voyage alertent leurs clients.
Promesse d'un jeudi noir sur TF1, jeudi noir aussi sur France 24, sur BFM TV, et même à la une des journaux, dont les Échos. Un jeudi noir dans les aéroports. Tout le monde était prévenu, gestionnaire d'aéroports, compagnie aérienne et donc passagers, avec ce message « Avancez ». Ou différer votre vol, ou trouver un autre moyen de déplacement.
C'est un balai. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Airbus 2000.
Bref, ce devait être un jeudi noir, jusqu'à ce que le syndicat SNCTA annonce la suspension de son préavis de grève.
Il y a eu effectivement un coup de théâtre.
Bruno Trévidic est journaliste aux Échos, spécialiste de l'aérien.
Le principal syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA, a levé son préavis de grève la veille du jour de grève, mercredi matin, après une nuit blanche passée à négocier avec les autorités de l'aviation civile et du ministère des Transports un accord sur les revendications principales. Bon, alors on n'a pas le contenu de l'accord, mais effectivement, ça a débouché sur la levée du préavis. Ceci dit, ça n'a pas changé grand-chose, car il était en fait trop tard pour remettre en place le programme de vol que les compagnies avaient déjà commencé à annuler. Et la journée a globalement commencé par des annulations massives à Orly, Roissy, dans les principaux aéroports français.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de perturbations alors que, finalement, la grève a été levée par ce principal syndicat ?
Plusieurs raisons à cela. D'abord parce que le SNCTA est le syndicat majoritaire, c'est le seul à trouver un accord et à lever son préavis. Donc, les autres syndicats restaient en grève. CGT, FO, SCFDT, UNSA, ICNA, ce qui fait déjà de toute façon quelques perturbations garanties. Et par ailleurs, la DGAC avait déjà envoyé aux compagnies aériennes la veille une note leur demandant de réduire leur programme de vol dans des proportions considérables, moins 75% à Orly, moins 65% à Roissy CDG, disons à peu près 60 à 70% un peu partout. Les compagnies aériennes donc avaient pris leur disposition en ce sens et ne pouvaient pas remettre la totalité des vols en place du jour au lendemain. Donc on en est resté, à part quelques vols qui ont pu être rétablis, je dirais, à la situation initiale, comme si la grève avait lieu avec un effectif complet.
Plus de 2000 vols en Europe supprimés, 3 vols sur 4 notamment au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, plus de la moitié pour les aéroports de Roissy et Marseille. La perturbation est réelle, mais il y avait aussi des inquiétudes pour le pont de l'Ascension avec un préavis de grève déposé du 9 au 11 mai. Y aura-t-il de nouvelles perturbations ?
La principale vertu de cet accord, effectivement, c'est de faire disparaître la crainte d'un nouveau jour noir, d'un nouveau préavis de grève du SNCTA pour les prochains jours. Il y en avait déjà un dans les tuyaux. Le SNCTA avait prévu d'appeler à la grève pour le 9, 10 et 11 mai. Donc, en quelque sorte, l'accord a tout d'abord permis de sauver les ponts. Et puis, par ailleurs, derrière cet accord, il y a, je dirais, la porte ouverte à la finalisation d'un grand projet de réforme des services de la navigation aérienne en France, et c'est probablement peut-être sur le moyen long terme la chose la plus importante.
On va y revenir effectivement sur cette réforme des contrôles aériens, c'est important, mais derrière, au-delà de ces ponts du mois de mai, il y avait aussi la perspective de JO qui pouvait être perturbée par les contrôleurs.
La question des JO se pose assez régulièrement, mais en fait, a priori, la trêve sociale qui avait été, je dirais, conclue ne devrait pas être mise en cause, quoi qu'il arrive. D'abord parce qu'effectivement, il y a eu un accord il y a un mois à peu près, contre l'augmentation de différentes primes, le SNCTA et un autre syndicat, l'UNSA, se sont engagés à ne pas faire grève pour des motifs salariaux pendant cette période. Alors, il reste d'autres syndicats qui, eux, ne se sont engagés à rien, mais qui sont minoritaires et qui ne devraient pas pouvoir perturber significativement le trafic. Donc, je dirais que la trêve des JO n'est pas remise en cause.
On met du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel.
Jacques Higelin et les heureux aiguilleurs du ciel, une archive de l'INA, ce sont les compagnies là qui sont un peu tombées des nues avec cette grève suspendue. Mais au fait, Bruno, à quoi servent les contrôleurs aériens ?
Le contrôle aérien, le contrôle aérien sert à organiser la circulation des avions dans le ciel, de façon à optimiser le trafic, mais aussi et surtout, je dirais, pour éviter que les avions se rentrent dedans. Donc, c'est avant tout, il est question de sécurité. Alors, ce contrôle aérien, en fait, se divise en trois types de missions qui correspondent à trois types de sites. On a le contrôle en route, qui consiste à gérer les avions en croisière, c'est-à-dire ceux qui partent ou qui arrivent des aéroports français, mais aussi ceux qui traversent l'espace aérien français. C'est le travail des cinq grands centres de contrôle régionaux, qui sont les principaux plaques tournantes du trafic. Il y a également le contrôle en approche, qui gère les vols en approche des aéroports. On en compte une trentaine en France, et il est question de diviser leur nombre par deux. Et puis, il y a les tours de contrôle, qui sont un petit peu la référence pour le grand public et qui gèrent les avions à l'atterrissage et au décollage, ainsi que les mouvements des avions au sol. Et toutes ces différentes catégories de sites sont gérées par des contrôleurs aériens.
Alors, je ne vais pas vous la chanter, mais vous connaissez cette chanson de Charlie Couture, « Comme un avion sans ailes ». Les contrôleurs aériens, finalement, c'est pareil. Sans eux, les avions ne voleraient pas ?
Sans eux, les avions voleraient éventuellement, mais dans des conditions de sécurité beaucoup plus dégradées et certainement pas la même quantité d'avions, en fait. C'est un petit peu l'aiguilleur du ciel, c'est la référence qu'on prend le plus souvent, mais je dirais c'est le copilote, même si les pilotes auraient probablement pas cette formule, c'est un peu le copilote de l'avion qui n'est pas dans l'avion.
Les aiguilleurs du ciel, j'aimais beaucoup, je trouve que c'est très poétique ce mot. C'est ce que j'entendais moi quand j'étais petit très souvent, il était déjà question de grève. L'histoire de l'aérien a déjà été marquée par des conflits d'ampleur de la part de cette profession.
Alors, la profession, dans son ensemble, elle a une position clé pour une activité qui est également cruciale économiquement, donc il est assez évident qu'elle a les moyens de revendiquer et qu'elle ne se prive pas de le faire. Et particulièrement en France. Depuis 2005, on a comptabilisé 249 jours de grève du contrôle aérien. Bon, c'est peu ou pas beaucoup, ça dépend si on compare ou pas avec la SNCF, par exemple. Mais si on compare avec les autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus. Le pays qui, notre challenger en la matière, la Grèce, n'a comptabilisé que 44 jours de grève, 34 en Italie, etc., etc. Et à chaque fois, ce sont des dizaines de milliers de vols annulés, non seulement au départ, et à destination de France, mais également des vols qui ne font que survoler l'espace aérien français et qui se retrouvent impactés par ces grèves du contrôle aérien français. Et comme la France a le plus grand espace aérien et une position centrale entre le nord et le sud de l'Europe, je dirais que toute l'Europe pâtit des grèves du contrôle aérien français et ne manque pas de s'en plaindre d'ailleurs. Pas plus tard qu'hier, l'Association internationale des compagnies aériennes a une fois de plus émis un communiqué pour protester contre l'impact de la grève du contrôle aérien français.
Alors Bruno, mais il y a quelque chose qui m'a surpris dans un article que vous avez écrit dans Les Échos, c'est que finalement, lorsqu'il y a grève, il suffit d'un petit nombre de contrôleurs pour bloquer une grande partie du trafic.
Alors d'abord, les effectifs ne sont pas considérables. On parle d'une profession qui englobe à peu près, je dirais, 3400 à 4000 personnes, d'une part. D'autre part, effectivement, et c'était surtout vrai par le passé, on avait, même pour caricaturer, je dirais, des grèves sans grévistes. La profession est soumise au service minimum, ce qui veut dire que quand un préavis de grève est déposé, la Direction générale de l'aviation civile, dans le temps, essayait d'estimer, en fonction de la représentativité du syndicat auteur du préavis, le nombre possible de grévistes, mais n'avait aucun moyen de savoir à l'avance qui viendrait travailler et qui serait en grève. Du coup, la DGAC, au doigt mouillé, en fonction du score du syndicat aux dernières élections, demandait un abattement de programme proportionnel, je dirais, au score du syndicat. Et puis, évidemment, les compagnies, donc, à 48 heures avant, supprimaient des vols. Et puis, le jour de la grève, tout le monde était éventuellement à son poste dans les tours de contrôle et les sites de contrôle. Et on avait zéro gréviste, mais on avait quand même les centaines de vols supprimés. Et on avait l'impact de la grève sans avoir le coût de la grève. Donc, c'était assez confortable, surtout pour les syndicats minoritaires ou peu représentatifs, qui pouvaient en quelque sorte, comme ça, se voir offrir sur un plateau une grève sans problème de retrait de salaire pour ses adhérents. Et puis, ça a changé très récemment, en tout début d'année. Le Parlement a voté une loi qui oblige aujourd'hui les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes 48 heures avant le début du mouvement. Donc, cela permet à la DGAC de savoir très précisément quel sera le pourcentage, le nombre de grévistes, et ça permet donc d'affiner les abattements de programmes en fonction du nombre réel de grévistes. On a déjà vu à deux reprises le système fonctionner, et ça a permis jusqu'à présent d'éviter des suppressions de vols pour des mouvements qui avaient très peu mobilisé. Mais ça n'est pas le cas pour la journée d'aujourd'hui.
Branchez Stryker sur haut-parleur.
Servez-vous de ma radio. C'était la mauvaise semaine pour m'arrêter de boire.
Et il s'en passe des choses dans la tour de contrôle du film Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Alors ça se passe différemment dans la réalité, enfin j'espère. Bruno, pourquoi les contrôleurs aériens avaient-ils appelé à faire grève ce jeudi 25 avril ?
Alors dans le cas précis, et c'est ce qui explique cette forte mobilisation, le principal syndicat de contrôleurs aériens à l'origine de ce préavis et les autres syndicats qui ont suivi s'oppose à un projet assez ambitieux de réforme des services de la navigation aérienne qui prévoit de remanier considérablement le maillage territorial de contrôle aérien, avec notamment le regroupement de la moitié des centres de contrôle en approche et la suppression d'un quart des tours de contrôle. C'est un aspect, le maillage territorial, il y a d'autres aspects. Globalement, il s'agit d'augmenter la productivité des contrôleurs aériens, en clair de les faire travailler davantage, d'avoir également plus de flexibilité, de faire en sorte que les gens soient présents pendant les pointes de trafic, c'est-à-dire ne prennent pas leur congé, en gros, quand la plupart des gens en prennent, de façon à avoir une meilleure adéquation entre les effectifs et la saisonnalité du trafic aérien. Beaucoup de choses qui consistent globalement à ramener le contrôle du trafic aérien français au niveau de ses partenaires européens, à permettre de suivre les augmentations de trafic sans que les retards explosent et sans également que le coût de tout ça explose.
Réorganiser le travail et le réseau pour améliorer l'efficacité, c'est ce que prévoit cette réforme. Les syndicats réclamaient de meilleures mesures d'accompagnement et de meilleures rémunérations, c'est ce que vous expliquiez. Dans un décryptage de ce projet de réforme d'ampleur, vous y parlez aussi d'un système que la réforme allait détricoter, c'est la pratique des clairances
Kesako.
Le sujet d'éclairance, en fait, ne faisait pas partie du projet de réforme, mais c'est un petit peu invité dans les discussions, un peu en dernière minute. L'éclairance, alors c'est un terme francisé d'un terme anglais qui correspond à l'autorisation de décollage pour les avions. C'est la pratique qui consiste pour les contrôleurs aériens, en fait, à s'accorder des absences non décomptées de leurs jours de congé et des absences à réduire, en fait, entre leur temps de travail quand le trafic, a priori, ne nécessite pas que les effectifs soient au complet. Le problème, c'est qu'il y a des abus. Et il y a un an de cela, le BEA a rendu un rapport sur une collision évitée de justesse le 31 décembre 2022 à l'aéroport de Bordeaux entre deux avions, un avion qui attendait pour décoller, et puis un avion d'EasyJet, en l'occurrence, qui s'apprêtait à se poser. En fait, le contrôleur aérien, qui était tout seul présent dans la tour, alors que l'effectif normal aurait dû être de 4 à 5 personnes, a failli oublier l'avion en attente sur la piste. Bref, la catastrophe a été évitée de justesse. Il y a, à la fin, néanmoins, un rapport du BEA qui a fait un lien entre cette erreur du contrôleur et le fait que les effectifs n'étaient pas au complet. Et si les effectifs n'étaient pas au complet, c'était parce qu'on avait pratiqué cette clairance et qu'une partie des contrôleurs aériens sur le tableau de service ce jour-là n'était pas en service. Donc, le BEA a recommandé la suppression de cette pratique, de ces clairances, un meilleur contrôle du temps de présence effectif des contrôleurs aériens. C'est ce qui a finalement été demandé par le ministère des Transports et ça se traduira par la généralisation de badgeuses et de pointeuses sur tous les sites de contrôle. Et il en existe déjà des badgeuses, mais en gros, jusqu'à présent, il était relativement simple de donner un badge à un collègue ou d'entrer et sortir du parking. Là, on parle de badgeuses biométriques, enfin de choses qui vont faire qu'effectivement, il sera très difficile de ne pas être présent ou de continuer à pratiquer l'éclairance. Simplement, cette mesure a été vécue comme une provocation ou très vexatoire par une partie des contrôleurs aériens, a exacerbé leur mécontentement et a probablement largement contribué à amplifier la mobilisation pour cette journée du 25.
Autre volet de la réforme important, hein, d'ailleurs, il porte sur les effectifs avec des besoins d'embauche pour le secteur.
La profession de contrôleur aérien va voir partir à la retraite un grand nombre de ses membres dans les prochaines années. On estime qu'environ un tiers des contrôleurs arriveront à la retraite entre 2029 et 2035, ce qui fait à peu près 1300 contrôleurs à remplacer entre 2029 et 2035. Or, il faut à peu près 4 à 5 ans pour former un contrôleur aérien. Donc, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et c'est l'un des enjeux également de la signature de ce projet de réforme, de ce protocole qui prévoit de raccourcir la durée de formation des contrôleurs aériens.
C'était pas la semaine pour ne plus se défoncer à la colle.
Journée de tension dans les aéroports et les tours de contrôle, malgré la levée du préavis de grève par le principal syndicat, il y a eu des négociations intenses. Qu'ont-ils obtenu ?
Le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé, c'est souvent le cas. Il y a une grande omerta, enfin une grande discrétion de la part des contrôleurs aériens et de leurs autorités de tutelle sur leurs conditions de travail, de rémunération, qui sont assez extraordinaires, je dirais, par rapport au statut ordinaire de la fonction publique. A priori, le point qui était le plus important pour le SNCTA, c'était de pouvoir accéder au plus haut indice de la fonction publique en fin de carrière. La situation des contrôleurs a ceci de particulier que leur salaire fixe ne représente qu'à peu près la moitié de leur rémunération. Tout le reste est constitué de primes. Et quand ces contrôleurs arrivent à l'âge de la retraite, qui est de 59 ans, la retraite est calculée sur le salaire fixe. Donc, il y a un risque de perte de revenus. Alors, il est relatif parce qu'il est déjà compensé par un fonds de retraite, un fonds de pension, en fait, assez généreux. Mais je dirais que pour améliorer encore ces pensions de retraite, le SNCTA réclamait qu'effectivement, les contrôleurs aériens puissent terminer leur carrière avec le meilleur indice, donc des salaires plus élevés, donc des pensions plus élevées. Et a priori, c'est ce qui a été obtenu. C'était la revendication principale qui avait été rejeté dans un premier temps, semble-t-il, dans un arbitrage par Matignon, ce qui avait encore accentué la colère du SNCTA et qui a donc été réintroduit dans le projet final, dans l'accord.
Voilà, la réforme, en tout cas, elle se poursuit. Mais pourquoi cette réforme est-elle nécessaire ?
Le point principal de cette réforme, c'est d'une part la productivité, on en a parlé, il faut faire en sorte que les contrôleurs aériens travaillent plus pour faire face à une augmentation du trafic aérien qui devrait être à peu près de 5% par an en Europe hein, d'ici 2030-2035. Et d'autre part, pour permettre la modernisation des outils eux-mêmes. Tous les outils informatiques avec lesquels travaillent les contrôleurs aériens français sont totalement dépassés et leur modernisation a pris 10 à 20 ans de retard. Il faut quand même imaginer que avant la crise du Covid, la France était la DSNA, le service de la navigation aérienne, était le dernier service européen qui utilisait encore des bandelettes papier pour inscrire les informations relatives au vol. Tous les autres centres de contrôle du trafic en Europe étaient évidemment passés à l'ère électronique, à la digitalisation. Le système qui équipe aujourd'hui encore une bonne partie des centres de contrôle date des années 60. Et le déploiement du système For Flight qui doit permettre à ces centres d'entrer, je dirais, dans le 20e siècle, alors qu'on est au 21e siècle, n'est toujours pas achevé et ne s'achèvera pas avant 2-3 ans. Le coût de tout ça a explosé. Évidemment, et parce qu'il faut à la fois continuer le déploiement et puis continuer à entretenir des systèmes informatiques totalement obsolètes. Donc, tout ça participe d'ailleurs du mécontentement, de la colère, du malaise des contrôleurs aériens depuis un bon moment. Ce sont des arbitrages qui ont été faits, je dirais, par les administrations, les tutelles et les gouvernements précédents, qui consistaient globalement à allouer plutôt les budgets à l'achat de la paix sociale qu'à la modernisation du système. Et aujourd'hui, en fait, il y a un effet cumulatif qui fait que, même si l'actuelle direction a fait de son mieux pour essayer d'accélérer cette modernisation et la réforme, eh bien, il y a beaucoup de choses à avaler en une seule fois.
Cette réforme, elle s'inscrit ainsi dans l'objectif de parvenir à un ciel unique européen, donc au niveau de l'Europe, avec deux objectifs, hein, éviter une surconsommation de carburant et donc une surpollution, permettre hein, aussi une meilleure occupation de l'espace aérien. Vous écrivez dans un article pour Les Échos que la France est d'ailleurs le cancre de l'Europe en matière de contrôle du trafic aérien. Sur quoi vous basez-vous ?
Alors, la France est effectivement régulièrement montré du doigt par tous les autres pays européens. D'une part, du fait du nombre record de grèves, hein, qui sont en soi, je dirais, une bonne façon de planter tout le monde. Hein. Donc, on est encore là. Hein. Le pic a probablement été atteint au début de l'année 2023, où on a eu 53 jours de grève sur le premier trimestre. Des grèves qui n'avaient en plus rien à voir avec le contrôle aérien, qui étaient des mobilisations organisées par les grandes centrales autour de la réforme des retraites. Donc, il faut savoir qu'une journée de grève comme celle d'aujourd'hui, par exemple, avec à peu près 70% du trafic abattu, représente des dizaines de milliers de passagers en France et ailleurs en Europe qui ne pourront pas prendre leur avion, dont le vol aura été annulé. C'est 300 vols pour Ryanair, probablement autant pour Air France. Donc un énorme mécontentement et une désorganisation généralisée partout en Europe. Et puis, il n'y a pas que les grèves, il n'y a pas que les annulations, il y a les retards qui ne font que augmenter depuis déjà longtemps. Et avec les retards, je dirais, il y a le gaspillage de carburant et la pollution qu'on aurait pu éviter pour des avions qui tournent avant de pouvoir se poser, qui ont des trajectoires qui ne sont pas optimisées. Tout ça tient à l'inefficacité du système dans son ensemble, l'inefficacité encore plus significative du système français, et puis à l'incapacité des différents États européens, à renoncer à leur spécificité, à leur souveraineté sur leur coin de ciel, pour essayer d'harmoniser un petit peu et d'optimiser la gestion d'ensemble. Ça, c'est le Graal du ciel unique européen, réclamé par la Commission européenne, depuis 20 ans, qui avance à petits pas d'un point de vue technologique, puisqu'effectivement, la première chose, c'est d'avoir des systèmes qui soient compatibles entre eux. Donc, ça a reposé le problème, notamment de la modernisation du système français, mais qui se heurte également, à des choses beaucoup plus politiques, à savoir la capacité des grands États à confier à une organisation supranationale, multinationale, européenne, la gestion de tout ou partie de leur trafic aérien. jusqu'à présent, globalement, malgré quelques belles déclarations d'intention, les différents gouvernements français ont refusé de céder sur ce point. C'est également vrai des Allemands, et ces deux pays ont en commun, je dirais, de gérer des espaces aériens importants, avec des professions de contrôleurs aériens assez syndiquées et globalement des performances très médiocres.
Un dernier mot, Bruno, des avions qui ne volent pas, ce sont des recettes en moins pour les compagnies. Quel impact cette journée de grève aura-t-elle pour ces compagnies ou même pour les aéroports français ?
C'est difficile d'avancer des chiffres précis, mais on parle de millions d'euros pour une compagnie comme Air France, de dizaines de millions d'euros pour les compagnies françaises et probablement d'une bonne centaine de millions pour les compagnies européennes. Une partie des vols du trafic perdu aujourd'hui pourra bien sûr être rattrapée les jours prochains, mais pas tous. Il y a des gens qui n'ont pas pu les prendre l'avion aujourd'hui et qui ne le prendront pas. Et puis, derrière ces grèves et éventuellement les concessions qui sont faites aux contrôleurs aériens ou les décisions qu'il faudrait prendre et qui ne sont pas prises, il y a un coût croissant des redevances du contrôle du trafic aérien qui va renchérir le coût du transport aérien en France et en Europe en général, et qui va donc faire baisser la compétitivité des compagnies européennes et françaises. C'est ce que ces compagnies n'ont pas manqué de souligner en réponse aux arguments des contrôleurs qui disent « Ben oui, mais nous sommes financés par les redevances et pas par l'impôt ». Certes, mais les redevances, ce sont des coûts pour les compagnies, donc in fine, pour le passager, c'est du pouvoir d'achat en moins, c'est de la compétitivité en moins, et à la fin du fin, c'est de la compétitivité en moins pour l'ensemble de l'économie française et européenne.
Merci Bruno Trévidic, spécialiste de l'aérien aux Échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.